Suivez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.
Et bonjour à tous, vous êtes bien en direct sur Radio Territoria et nous sommes toujours en direct du 84e congrès HLM à Montpellier pour une ultime journée, émission réalisée depuis le stand du gouvernement. Comment aider les ménages en difficulté d'accès ou de maintien dans le logement via un accompagnement social et financier? Eh bien, dans cette émission, nous parlons du dispositif AVDL, l'accompagnement vers et dans le logement social avec la DIAL, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Autour de moi, Moufid Rimki, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Chef de projet à la mission accès et maintien dans le logement à la DIAL, Maryse Sylvestre, bonjour.
Bonjour.
Responsable du département politique sociale à l'Union sociale pour l'habitat, et Marianne Ricom, bonjour.
Bonjour.
Directrice générale adjointe à l'OGA, bailleur social du département de l'Aude et de l'Ariège. Bonjour en tout cas à tous et bienvenue à tous les trois. Merci de répondre gentiment à cette invitation. Alors, créé en 2010, Moufid Rimki, est-ce que vous pouvez tout simplement nous expliquer quelles sont les missions concrètes de la DIAL au quotidien?
Bonjour. Alors, la DIAL, donc, c'est la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Elle a été créée en 2010 et donc elle est chargée de la mise en œuvre de la politique publique en matière d'hébergement, d'accès au logement et de maintien dans le logement des personnes sans abri ou mal logées, avec l'objectif de diminuer de manière significative le nombre de personnes sans domicile. Et pour cela, donc, elle a mis en place un plan logement d'abord sur lequel on pourra revenir.
Ah oui, justement, on va en parler de ce fameux plan logement d'abord et de son rôle dans la réduction du nombre de personnes sans domicile.
Alors ce plan, cette politique du logement d'abord a été lancée en 2017. Le premier plan quinquennal donc, était sur la période 2018-2022 et il a donné en tout cas un certain nombre de résultats. Je vais citer quelques chiffres. Voilà, à fin 2023, nous avions 550 000 personnes qui ont pu accéder à un logement. On a eu 150 000 attributions de logements sociaux pour les ménages sans abri. On se rend compte en tout cas que sur cette période, la part des attributions aux personnes sans domicile a bien augmenté. Elle est passée de 3,9% à fin 2017 à plus de 7% en 2023, dans un contexte où on a moins de possibilités de logements sociaux, moins d'attributions, moins de production, des taux de rotation de plus en plus bas. Donc, ce plan a permis véritablement, en tout cas, d'accélérer l'accès au logement, en tout cas, des personnes sans domicile. Et ce plan aussi, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un plan national, mais porté territorialement par les territoires, et notamment 44 collectivités qui sont engagées donc comme territoires de mise en œuvre accélérée du logement d'abord, et qui ont su développer une palette de solutions innovantes au service de l'accès et du maintien des personnes en situation de grande précarité. Des résultats importants grâce notamment à l'engagement de l'État, des bailleurs sociaux, des collectivités, mais aussi des associations. Et fort des résultats de ce premier plan, un deuxième plan a été mis en place pour la période 2023-2027, avec toujours l'objectif d'aller plus loin, notamment sur trois axes. Celui de produire du logement adapté, produire et mobiliser une offre de logement adapté, que ce soit dans le parc social, mais aussi dans le parc privé. Construire des parcours d'accompagnement efficaces. Et enfin, un axe très important sur la prévention des ruptures, et notamment sur la prévention des expulsions locatives.
Et on aura l'occasion de détailler un peu plus ça tout à l'heure. Marie-Sylvestre, combien d'opérateurs HLM représente l'USH et surtout, quelles sont les grandes missions de l'Union sociale de l'habitat?
Alors, l'Union sociale pour l'habitat, ça représente quelques 559 opérateurs HLM. Et donc, à travers ces cinq fédérations qui sont ici présentes sur le congrès. Donc, la Fédération nationale des offices publics de l'habitat, les entreprises sociales pour l'habitat, les coopératives, Procivis et la Fédération nationale des associations régionales. Et donc, on remplit trois grandes missions, en fait. Déjà, une mission de représentation nationale auprès des pouvoirs publics, des médias et des milieux professionnels. On a aussi une mission d'analyse et d'études sur tous les dossiers relatifs à l'habitat. On élabore des propositions pour une politique sociale de l'habitat. Et puis, on a aussi une fonction d'information, de conseil et d'assistance auprès des organismes HLM. Donc ça, c'est nos trois grandes missions. Donc, l'Union sociale pour l'habitat, on organise aussi le congrès auquel vous êtes aujourd'hui. Donc voilà, et le congrès est vraiment l'événement annuel des décideurs HLM pour échanger et de réfléchir sur les grandes orientations et les priorités d'action pour le secteur du logement social. Peut-être dire quand même le rôle aussi des organismes HLM dans la politique du logement d'abord.
Oui.
Des organismes HLM, comme l'expliquait Moufid, sont impliqués dans cette politique, hein, que ce soit à la fois dans le cadre du droit au logement opposable, mais aussi pour trouver des solutions donc en accès et en maintien dans le logement des personnes qui rencontrent des difficultés d'accès au maintien. Et puis, ils sont aussi présents dans tout ce qui est développement de produits, on va dire, d'habitat thématiques spécifiques pour des publics plus défavorisés, notamment par la construction de produits type pension de famille, résidence sociale, ou pour trouver aussi des solutions pour ce public dans le diffus, souvent soit dont les bailleurs sont gestionnaires en direct, soit confiés en gestion à des associations pour certaines résidences ou pour certains dispositifs.
Alors, Marianne Ricom, je me tourne vers vous en quelques mots. Est-ce que vous pouvez nous présenter aussi rapidement le champ de compétences d'Allogéa?
Oui, donc on est un bailleur social, une ESH, on est membre du groupe Habitants Région, on a 5 400 logements, pas 54 000, non. Je prends mes rêves pour des réalités, dans l'Aude et l'Ariège, avec une tension immobilière assez hétérogène, hein, en fonction des endroits du département, des zones rurales, des zones de plus en plus tendues, notamment sur le Narbonnais. On a un bailleur social qui est engagé sur deux volets forts, la réhabilitation énergétique, puisqu'on a réhabilité pratiquement la moitié de notre parc, qui est un parc ancien, années 70, pour en faire des étiquettes A, B ou C. Donc on a vraiment cet engagement-là. Et parallèlement, l'engagement d'un accompagnement social fort dans notre organisation aussi, avec 5 CESF, donc 3 qui sont sur l'accompagnement social, une responsable d'accompagnement social. Pour 5 400 logements, c'est un choix important. Et le FNAVDL, on y viendra tout à l'heure, n'y est pas pour rien, puisque ça influe aussi dans notre façon de travailler.
Et vous avez raison, on va y revenir tout à l'heure. Moufid, à quoi sert le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, et en quoi est-il surtout un outil essentiel à la mise en œuvre du plan logement d'abord ?
Le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement donc sert à financer un certain nombre d'actions d'accompagnement qui visent à favoriser donc, l'accès et aussi ou le maintien dans le logement de ménages en grande difficulté grâce à un accompagnement social adapté pour y vivre, bien y vivre durablement et en bénéficiant à la fois des droits et en respectant les obligations inhérentes au statut de locataire. Donc c'est un dispositif essentiel du plan logement d'abord parce qu'on l'a vu en tout cas, pour pouvoir faciliter l'accès au logement, il faut pouvoir mettre en place voilà, ces mesures d'accompagnement pour les publics qui le nécessitent, qui sont en demande. Et donc c'est un accompagnement qui est modulable, adaptable, qui est porté par un certain nombre d'organismes aujourd'hui. On va avoir des associations, il y a des bailleurs sociaux qui vont porter ces projets, des ADIL, des agences départementales d'information pour le logement, des CCAS, centres communaux d'action sociale.
Oui.
Voilà, donc un certain nombre d'acteurs finalement qui vont porter ces mesures pour favoriser une fois plus l'accès et le maintien dans le logement des personnes précaires et qui le nécessitent.
Alors justement, quand on parle de l'outil AVDL, à qui il profite ? Parce que là, on parle de public cible, de qui on parle finalement ?
Donc, ces publics, ce sont bien sûr, à sa création, ils visaient les publics reconnus prioritaires au titre du DALO, donc du droit au logement opposable, mais ils visent aussi donc, les publics qui peuvent être reconnus prioritaires au titre des plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Et plus largement, ce sont les personnes qui sont ciblées par la politique du logement d'abord. Ce sont bien sûr les personnes à la rue ou hébergées, les personnes menacées d'expulsion, ça peut être les personnes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, ou encore les jeunes, bien sûr, qui peuvent sortir d'institutions. Donc voilà, une grande diversité finalement de publics qui sont visés par ces mesures d'accompagnement.
Et comment la DIAL assure-t-elle finalement le pilotage national du FNAVDL et comment ce pilotage est-il articulé avec les différents services déconcentrés de l'État ?
Aujourd'hui, au niveau national, le fonds est administré par un comité de gestion qui est composé à la fois de représentants des ministères en charge du logement, en charge aussi du budget, d'un représentant de l'Union sociale pour l'habitat, Donc ce comité est présidé par la DIAL, il fixe les orientations, il définit les priorités, il répartit les enveloppes entre les régions. Et donc la DIAL, ce rôle-là, il y a un autre acteur important dont on n'a pas parlé, c'est aussi la Caisse de garantie du logement locatif social qui assure la gestion de ce fonds. Mm-hmm. Donc ça, c'est au niveau national. Là. Ouais. Et au niveau territorial, ce pilotage de la VDL est assuré par les services déconcentrés de l'État, donc que ce soit les DRETS ou les DREAL au niveau régional, ou les DETS et les DDT pour le niveau départemental, bien sûr en lien avec les associations régionales ou départementales des bailleurs sociaux. Et aussi, il faut le dire, en lien avec d'autres acteurs importants que sont les SIAO, les services intégrés d'accueil et d'orientation, les associations Action Logement, bien sûr,
évidemment,
et les collectivités.
C'est un fonds qui est financé comment ?
Aujourd'hui, on a deux sources de financement. La principale ressource, ce sont les astreintes d'ALO, qui sont payées donc, par les services de l'État suite à la condamnation de l'État qui ne reloge pas, qui n'arrive pas à reloger en tout cas des ménages dans les délais réglementaires. Et l'autre ressource, c'est la contribution des bailleurs sociaux. Donc au niveau des ressources, des moyens du FNAVDL, sur 2024, on est à peu près sur 60 millions d'euros, avec 40 millions d'euros d'astreinte encaissée et 25 millions d'euros de contribution de l'USH. Cette contribution, et d'ailleurs, je le note et je remercie l'USH et les bailleurs, donc est passée de 15 millions d'euros en 2023 à 25 en 2024, ce qui permet d'avoir des moyens supplémentaires.
Évidemment.
Pour pouvoir avoir plus de projets, lancer plus d'appels à projets, retenir plus de projets et, au final, accompagner plus de ménages et de situations.
Alors, le FNAVDL a fait l'objet d'une réforme. Ça a débouché sur quoi ? Une augmentation des enveloppes, déjà ?
Effectivement. D'abord, une augmentation des enveloppes, puisque avant il était alimenté simplement par les astreintes d'ALO. Et puis, depuis 2020, donc, il y a cette contribution des bailleurs sociaux, qui était de 15 millions d'euros par an. Cette réforme a permis en tout cas une simplification. Avant, on avait de la VDL pour le DALO, de la VDL hors DALO, les HLM accompagnés. Cette réforme a permis en tout cas d'uniformiser, d'avoir un seul fonds pour un seul dispositif avec un pilotage national, comme on l'a dit, mais aussi une grande marge de manœuvre pour les services déconcentrés, pour les régions et les départements dans les appels à projets, la sélection des projets. Et surtout, il a permis d'avoir plus de résultats en termes d'accompagnement, du nombre de ménages accompagnés.
J'imagine, évidemment. Alors, on termine là-dessus, d'ailleurs, si vous voulez bien, mais le nombre de ménages qui ont bénéficié d'accompagnement dans le cadre de ce fonds, quel est-il ?
En 2023, ce sont 29 000 ménages donc, qui ont bénéficié d'un accompagnement, dont 35% de ménages qui ont été reconnus prioritaires au titre du DALO. Donc, c'est une part importante, mais on voit en tout cas qu'aujourd'hui, le dispositif touche de plus en plus de monde et pas forcément que des ménages d'ALO. Ces résultats nous permettent de dire aujourd'hui que c'est vraiment un outil indispensable dans les territoires, que ce soit dans le cadre de la prévention des expulsions, que ce soit dans le cadre de la fluidité de l'hébergement vers le logement. On a aussi de la VDL qui est mise en place dans le cadre de l'accès à des logements en PLAI adaptés. Voilà. Et la VDL permet également, en tout cas, de répondre aussi parfois à des problématiques spécifiques. On le voit donc avec l'accompagnement des ménages en fragilité psychosociale. On le voit aussi sur les femmes victimes de violences, les jeunes en grande difficulté, ou encore, on n'en a pas parlé, mais les personnes isolées qui peuvent être en risque de rupture résidentielle. Et donc une grande diversité de publics et avec des moyens des résultats en progression, des moyens en hausse et des ménages accompagnés en hausse.
Alors, Marie-Sylvestre, si on parle du rôle concret, rapidement, de l'Union sociale pour l'habitat dans le pilotage national du fonds.
Alors, concrètement, comme l'a expliqué Moufine, donc nous, en tant qu'USH, on participe au comité de pilotage national du dispositif, donc on participe aux réflexions et aux échanges sur le fonds. Je pense qu'il faut aussi noter le rôle important des ARHLM, puisqu'en fait, localement, elles participent au dispositif local et participent aussi aux décisions qui sont prises au niveau local dans le cadre des appels à projets qui sont lancés. Donc ça, c'est notre rôle, on va dire, un peu au niveau national. Donc on accompagne aussi les aires et les organismes dans le développement de projets. Mmh. Et c'est vrai que ce qui est intéressant à noter, c'est que dans ce dispositif, ce qui est intéressant pour nous, c'est que les bailleurs sociaux sont impliqués aussi concrètement, ouais. Puisqu'ils sont porteurs d'initiatives, de projets dans le cadre des appels à projets qui sont lancés au niveau local sur les territoires. À noter aussi que ces projets sont portés ou co-portés par les bailleurs avec un rôle important des associations aussi dans le développement de projets. Et à ce jour, on a effectivement à peu près 180 projets d'AVDL qui sont portés, ça c'est les chiffres 2023, donc il y en a eu d'autres aux années d'avant, qui sont portés ou co-portés par des bailleurs sociaux.
Alors justement, je rebondis sur ce que vous dites, de quel type de projet en fait on parle ?
Alors, sur les thématiques, les bailleurs sociaux développent différentes sortes de projets sur de nombreuses thématiques. Il y a effectivement un nombre notamment assez important de projets qui visent le maintien dans le logement. Alors quand on dit maintien dans le logement, en fait, on vise les personnes qui sont en difficulté dans leur logement parce que pour des problématiques diverses. Et donc, c'est vraiment des actions qui visent la prévention des expulsions. Et donc, l'idée, en fait, concrètement, c'est des ménages sur lesquels souvent le bailleur n'arrive plus à rentrer en contact avec ces personnes. Il peut y avoir des ruptures. C'est souvent des gens qui sont très isolés. Et donc, le FNAVDL permet de financer des actions d'accompagnement. Donc, c'est une association qui va vers la personne, qui va mener des actions d'aller vers pour essayer de faire revenir la personne un petit peu dans un processus d'essayer de reprendre contact avec cette personne et de lui proposer un accompagnement adapté pour pouvoir effectivement qu'elle puisse se maintenir tout simplement dans son logement. Et donc c'est l'association qui va accompagner cette personne. On a aussi beaucoup de projets qui visent la santé mentale, qui est une préoccupation très importante pour les bailleurs. Et donc une association va aller à la rencontre de la personne, essayer de trouver des solutions pour elle. Mais on a aussi des projets qui visent l'accès pour des personnes qui sortent de la rue, des personnes qui sortent d'hébergement. Donc on va les accompagner pour leur permettre d'accéder au logement. On a aussi pas mal de projets qui touchent les personnes qui sont victimes de violences conjugales pour leur apporter des solutions de logement. Et puis on a aussi un certain nombre de projets sur les jeunes en difficulté et notamment sur les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance.
Alors, ce sont des projets qui ont été concrétisés, dont vous nous avez parlé. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les retours sur expérience des organismes HLM concernant l'efficacité du dispositif, de l'outil.
Alors, j'ai pas de... C'est des choses qui sont compliquées à concrétiser, mais en tous les cas, comme le disait Moufid, il y a eu beaucoup de ménages qui ont été accompagnés. Je crois que tu évoquais le 29 000, je ne sais plus si c'était sur quelle année, mais enfin voilà. Les ménages sont accompagnés, et donc c'est vraiment un enjeu en termes de maintien, en tous les cas, c'est assez efficace parce qu'à partir du moment où on arrive à retrouver la personne et à la mettre dans un processus de droit commun qui lui permet d'avoir des aides, etc., les personnes peuvent se maintenir. Donc en tous les cas, les bailleurs sont souvent très satisfaits du partenariat qu'ils ont avec les associations. Peut-être que Marianne-Nico l'expliquera certainement mieux que moi d'un point de vue concret, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment... aller vers les gens et leur permettre de faire de rentrer dans un processus leur permettant de les aider, de les accompagner à la fois en accès et en maintien.
Et comment l'AVDL peut-elle avoir un impact sur les partenariats locaux ?
Alors, effectivement, le FNAVDL, l'autre point fort, en dehors du fait qu'on trouve des solutions aux personnes, donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante, mais c'est aussi, quelque part, une manière de développer son partenariat au niveau local. Parce que déjà, il y a le partenariat entre les ARHLM et les services de l'État. Donc ça, c'est important parce qu'ils échangent sur des priorités d'action. Ensuite, il y a la question du partenariat entre le bailleur et l'association, puisque ensemble, ils définissent un projet. Ensemble, ils se mettent d'accord sur qui on va accompagner, pour quel public. Donc il y a aussi un projet à construire avec l'association qui développe ce partenariat. Ça peut être l'occasion aussi d'élargir le champ, puisque il y a des projets sur la santé mentale, par exemple. On va essayer d'aller creuser d'autres partenariats avec des acteurs de la santé. Et puis ça permet quand même aux bailleurs d'être identifiés sur ces thématiques, d'être porteurs d'initiatives, d'être identifiés auprès des partenaires comme vraiment porteurs de projets sur ces questions sociales et du logement d'abord. Et du coup, ça permet de s'inscrire dans les politiques du logement d'abord qui sont définies par les collectivités et qui sont mises en œuvre sur les territoires avec des moyens financiers d'accompagnement.
Il y a des perspectives d'amélioration encore en termes de partenariat ?
Alors, oui, je pense que dans les perspectives, je ne sais pas si c'est des perspectives d'amélioration, mais en tous les cas de réflexion sur les territoires, il y a effectivement l'enjeu de vraiment bien s'articuler avec les autres dispositifs d'accompagnement, puisqu'il y a d'autres dispositifs d'accompagnement sur les territoires qui sont notamment portées par les collectivités, comme les FSL, par exemple. Donc, c'est, voilà, un enjeu à bien s'articuler. Et peut-être, effectivement, dans les axes de réflexion, tous les cas qu'on mène, c'est comment on s'articule mieux avec les collectivités locales et les actions qui sont menées. Voilà.
C'est les vraies pistes de réflexion.
Ça se fait déjà, mais je pense qu'il y a aussi des possibilités d'élargir encore cette question de partenariat sur l'accompagnement.
Allez, je me tourne vers Marianne Ricom. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe à l'OGA, bailleur social du département de l'Aude et de l'Ariège. Est-ce que vous pouvez nous décrire plus précisément le contexte de précarité, de tension immobilière dans l'Aude et l'Ariège qui ont conduit finalement à l'OGA à s'engager dans ce dispositif ?
Donc l'Aude et l'Ariège, l'Aude notamment, sont des départements vraiment marqués par la précarité. On est le troisième département de taux de pauvreté en métropole. Et on a aussi un département qui n'est pas immense, donc on a un nombre d'acteurs et de dispositifs qui est présent. Hein. Il y a un effort important du conseil départemental et de l'État, mais on n'a quand même pas non plus un étayage social très fort. Donc on s'est retrouvé en fait à plusieurs acteurs, et là je veux parler d'Habitat au Doigt, qui est l'office départemental de l'Aude, qui a 6600 logements et avec qui on travaille depuis 10 ans sur ce projet. Donc on se retrouvait vraiment très démunis face à des situations, notamment en maintien. On disait, mais on ne sait pas quoi faire en dehors de l'expulsion, en fait on n'y arrive pas, on n'a pas assez de dispositifs, l'accompagnement mis en place n'est pas adapté ou n'est pas suffisant. Donc on se trouvait démunis face à des situations, on se trouvait obligé de faire une expulsion, et c'était extrêmement... Ça ne nous convenait pas du tout. Donc c'est vrai que quand on a vu le premier appel à projet en 2015, on a tous un peu sauté dessus, je dirais vraiment. Donc que ce soit Habitat au Doigt et à l'OGA, donc nous. L'État aussi, qui lui était intéressé pour qu'on travaille sur l'accès. Nous, on était intéressés pour le maintien. Et on s'est dit, on va faire maintien-accès. Et on va faire un projet vraiment qui a une cohérence, parce qu'encore une fois, sur un territoire qui n'est pas immense, il ne faut pas multiplier les dispositifs. Donc on a fait ça et on a trouvé une association aussi, et là qui a vraiment, je ne sais pas si c'est le fer de lance, mais qui est vraiment majeur dans ce travail, c'est l'association ADAF, donc Association départementale d'aide aux femmes et aux familles, qui à ce moment-là faisait essentiellement du CHRS et qui là souhaitait aussi expérimenter dans la logique du logement d'abord, le CHRS hors les murs, et donc travailler vraiment sur l'accompagnement renforcé dans le logement.
Donc il y a un accompagnement entre l'OGA, Habitat au Doigt et l'association ADAF. C'est quoi les différentes étapes ensuite dans un accompagnement ?
Donc on parlait de partenariat. Enfin, moi je m'inscris tout à fait dans tout ce qui a été dit là sur comment travaillent les bailleurs, notamment dans ce dispositif. En fait, il y a un pilotage opérationnel très resserré. Tous les mois, il y a un rendez-vous où il y a un suivi des familles. Donc celles qui sont... En fait, ça part d'une inquiétude de nos travailleurs sociaux, du terrain, en disant, cette famille-là, les dispositifs existants de droit commun, ça ne suffit pas, on va avoir un problème. Ou alors, ce demandeur-là, si on ne met pas le dispositif, ça ne va pas fonctionner. Donc du coup, à partir de ce moment-là, la situation, il y a un prédiagnostic qui est fait par nos travailleurs sociaux. Et ce prédiagnostic est partagé dans un comité opérationnel où il y a donc le bailleur, les bailleurs, donc les deux bailleurs, l'association et l'État. Donc là, on décide si, oui ou non, on met ces familles dans le dispositif. En général, c'est quand il y a un cumul de difficultés. Enfin, c'est vraiment ce qui a été dit. Donc, je vais pas répéter là-dessus sur le type de public. Et donc, à partir de là, il y a le diagnostic, un diagnostic approfondi qui va dire soit on va sur du droit commun, c'est-à-dire soit on accompagne la personne, mais dans 3 mois, on peut la mettre sur un dispositif de droit commun et ça marche. Et comme ça, on n'empile pas les dispositifs. Ou alors on sent que là, il va y avoir besoin d'un accompagnement vraiment intense, adapté, global. Et là, ça peut aller jusqu'à 23 mois. Et c'est la DAF qui fait cet accompagnement.
Ah oui, ce qui est intéressant, là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, on a un dispositif qui n'est pas figé. C'est-à-dire qu'il s'adapte, il est modulable. C'est un dispositif à écarte.
Oui, complètement, en fait. Alors, est-ce que c'est la taille de notre territoire ou est-ce que notre envie de travailler comme ça ? La logique, c'est de se dire... On part vraiment de l'habitant ou du demandeur. Quelles sont ses difficultés ? Alors après, on les retrouve, personnes isolées, victimes de violences, addictions, santé mentale, enfin voilà, tout ça on retrouve. Mais vraiment, on part du demandeur et on construit même l'accompagnement avec lui. Enfin, et quand je dis « on », c'est vraiment là les compétences de la DAF que je tiens à souligner. même si notre équipe de travailleurs sociaux est très bien aussi. Donc, c'est quels sont les besoins ? Parce qu'il y a la partie, je dirais, de l'iceberg visible, hein, qui est pour le bailleur un problème d'entretien dans le logement, un problème d'impayé, un trouble de voisinage, enfin voilà, des choses qu'on reconnaît, qui sont presque quotidiennes. Et derrière, c'est toute la personne dans sa globalité, donc c'est un accompagnement global. On va aller chercher les difficultés de la personne familiale, enfin ses difficultés en termes de santé, éventuellement santé mentale. Et là aussi, la DAF crée des partenariats autour de ça.
Quels enseignements, au final, vous avez réussi à tirer de cette mise en œuvre du projet AVDL depuis 2015 ?
Alors, on parlait d'éviter les ruptures de parcours. Et sincèrement, cet outil-là du FNAVDL permet, nous, et c'est la façon dont on l'a mis en place, mais je pense dont d'autres l'ont mis en place aussi, ça permet vraiment d'éviter les ruptures de parcours, et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, on vous accompagne 3 mois, et puis après, bon, bah, désolé, vous ne rentrez plus dans la case. Ça, vraiment, c'est comme ça qu'on arrive à faire avancer les personnes. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que le bailleur, il doit apprendre le temps long. Il doit apprendre qu'il y a une procédure d'expulsion, certes, mais bah, des fois, on va risquer de perdre 1 000 euros pour permettre à la personne de continuer son accompagnement et de rebondir. Donc il y a vraiment une infusion, une diffusion du travail social dans le fonctionnement du bailleur. Et ça, c'est très important. On est un bailleur social. Donc on ne peut pas tout faire et tout accepter, mais il faut qu'on s'adapte. On n'est pas que du contentieux, loin de là.
Ça fait combien de ménages qui ont été aidés ?
Sur un an, on a une trentaine de ménages à chaque fois, chaque année, qui sont suivis. Et on parle en file active, c'est-à-dire il y a constamment 17 à 18 ménages qui sont accompagnés par la DAF pour Habitat au Doigt et pour nous.
Donc ça, ce sont des chiffres parlants, très concrets. Maintenant, peut-être plutôt en prenant en compte la dimension sociale, l'impact sur les ménages qui ont été accompagnés, quel a été ?
Alors, déjà, redire que là, actuellement, on a, bon, tout le monde le sait, mais on a marqué vraiment par une précarité croissante. Là, on a une commission situation complexe en interne et les situations qui arrivent sont dramatiques, mais de plus en plus. Donc, on a vraiment une vraie inquiétude. Donc, cet outil-là, il permet déjà juste de répondre à quelque chose d'indispensable. On ne saurait pas faire sans aujourd'hui. Enfin, je le répète parce que c'est vrai, c'est très vrai. Et ensuite, ben, qualitativement, je pense à une personne qui allait extrêmement mal, une personne qui était réfugiée, qui avait des gros problèmes de santé mentale. Et on a construit, co-construit avec la DAF. On est allé jusqu'à une hospitalisation par un tiers et c'est notre responsable d'accompagnement social qui l'a fait avec l'association. Donc, il y a vraiment eu quelque chose de très, très, très accompagnant, très encadrant. Et aujourd'hui, cette personne, elle va bien. Elle a repris le paiement de son loyer, elle est dans son logement. Et voilà, c'est ça, en fait, qu'on fait au quotidien.
Pour le coup, il y a un retour sur investissement, mais à tous les niveaux. Là.
Ah oui, 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 c'est vraiment. Il y a un vrai... c'est vraiment un cercle vertueux.
Ouais. Ouais. Un grand merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau, d'être venus témoigner. Merci également de nous avoir suivis. Cette émission, elle était en direct de la 84e édition du congrès HLM. Merci également aussi de nous accueillir ici même, l'USH, c'est très gentil à vous. Cette émission, elle est également disponible en replay, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine émission, toujours en direct sur Radio Territoria. Merci et à tout à l'heure.
Vivez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.